Oui, bonjour. Alors, on est mercredi matin, troisième journée de la Big Oasis. Et comme hier, la journée a été un peu longue et qu'elle se prolongeait par un concert, c'est seulement ce matin qu'on va pouvoir vous faire un petit résumé de la façon dont la journée s'est passée. Alors là, je suis avec Myriam. Myriam qui a travaillé toute la journée d'hier pour organiser l'animation et la facilitation. Et je vais donc lui laisser la parole pour nous raconter ce qu'on a fait.
Bonjour Florence. Alors la journée d'hier s'est déroulée à l'autre soie à Villeurbanne autour du thème élus et territoires en question et en action. On a eu trois ateliers au cours de la journée, des ateliers assez denses, assez riches, qui ont permis de questionner d'une part le rôle de l'élu et nos attentes vis-à-vis de lui. On a notamment parlé de confiance, d'humilité des élus, mais aussi de courage. On a parlé du fait que les élus puissent permettre davantage l'expérimentation et qu'ils ouvrent des espaces de dialogue et impliquent davantage les citoyens. Et aussi, comment ils pouvaient davantage vulgariser, être plus pédagogues dans leurs discours pour sensibiliser. On a aussi abordé au cours de cet atelier comment nous, en fait, en tant qu'accompagnateurs, accompagnatrices, on pouvait être utiles aux élus. On a abordé des questions à la fois de sensibilisation des citoyens, mais aussi de formation des élus, sur des questions comme la coopération, la co-construction, la gestion d'assemblées locales, l'élaboration de projets complexes, etc. Un autre atelier a permis d'aborder la question territoire résilient, et notamment qu'est-ce que la résilience territoriale, comment y parvenir, et qu'est-ce que ça implique à la fois pour l'action publique locale et pour nos postures en tant qu'accompagnateurs et accompagnatrices. Après avoir partagé nos représentations par l'image et exploré le concept d'un point de vue théorique, on a eu en fait une discussion ouverte en plénière pour pouvoir réfléchir à quelles questions ça soulève pour nous. Donc parmi les questions qui ont émergé, il y a eu la question de l'acceptabilité sociale, donc comment les élus peuvent travailler l'acceptabilité sociale sur des mesures peut-être impopulaires, comment construire un imaginaire commun, comment conserver une trajectoire positive malgré le contexte annoncé, ou encore comment gérer la conflictualité autour de ressources, notamment avec les acteurs aux intérêts divergents, par exemple sur la question de l'eau. Et enfin, pendant le dernier atelier, on a exploré des initiatives qui ont émergé pendant la crise du Covid autour de trois thèmes: apprendre, s'alimenter, fabriquer et produire autrement. On a eu la chance d'avoir le témoignage de personnes qui ont participé à lancer des initiatives spontanées pendant ce temps de confinement. Et donc après ces temps de réflexion autour de quels ont été les facteurs clés de succès de ces initiatives, comment elles se sont positionnées par rapport aux acteurs publics, on a fait émerger des pistes d'action concrètes à partir des apprentissages de ces initiatives pour les collectivités et les élus. Et par exemple, sans être exhaustive, on a parlé d'assouplissement du cadre légal, ou en tout cas du renforcement de la confiance des élus, des acteurs publics envers la société civile. La posture de la co-construction, demander aux élus d'être dans une posture de co-construction avec les acteurs de la société civile et monde économique, en particulier autour de la question de comment repenser l'école. On a parlé de la question de rendre accessible la donnée, prendre des décisions par le cœur, non par la peur. Et aussi des choses aussi concrètes que donner vie au plan déjà en cours, notamment sur l'alimentation, plan alimentaire territorial, voire faire appliquer des lois qui existent et qui ne le sont manifestement pas aujourd'hui. Donc, suite à ce temps d'atelier en intelligence collective, on a eu une table ronde assez riche avec un certain nombre d'élus du territoire, dont Grégory Doucet, maire de Lyon, et une élue de Villeurbanne.
Ok, donc merci pour ce joli résumé de cette journée. J'ai quand même envie de te demander quelques impressions. Je sais que toi, tu t'es engagée sur cette journée avec cœur. D'abord, qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de participer à cette aventure?
Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est Isabelle Chenvez qui m'a demandé en fait si je voulais animer un atelier sur la résilience territoriale. C'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, hein, au point que j'oriente aujourd'hui mon activité professionnelle dessus. Donc, pour moi, pouvoir mettre en résonance ce sujet et mobiliser l'intelligence collective pour explorer les contours de ce concept, ce que ça implique avec des acteurs du territoire, des élus, des agents des collectivités, des accompagnateurs, c'est extrêmement riche d'enseignements, voilà, et puis ça me nourrit énormément. L'autre élément, c'est de rencontrer des acteurs engagés du territoire. Il y avait une très belle énergie pendant cette journée, et je sens qu'au-delà voilà, de conceptualisation, il y a eu des pistes très concrètes qui ont émergé, des liens qui se sont faits, et pour moi, c'est aussi comme ça qu'on se dirige dans le monde qui vient, en fait. C'est par là, pour citer Olivier Frérot, c'est comme ça qu'on va vers le monde de l'hospitalité.
Merci. Et est-ce qu'il y a un moment particulier ou quelque chose en termes d'émotion, quelque chose qui t'a marqué particulièrement que tu as envie de partager avec les auditeurs de la Bigre Radio?
Un moment qui m'a fait particulièrement plaisir, qui m'a marqué, c'est justement à la fin de la session sur la résilience territoriale, quand on a ouvert la parole en plénière. Donc, il faut savoir qu'il y avait une cinquantaine de personnes pour demander aux gens, voilà, qu'est-ce que ça leur inspirait, quels questionnements ça soulevait pour eux. On a toujours cette petite frayeur en tant que facilitateur que personne n'ose prendre la parole. Et au contraire, en fait, les gens se sont vraiment saisis de cette question, se sont exprimés devant tout le monde, parfois sur des points de vue contradictoires. Et ça, c'est aussi agréable de voir que le climat est suffisamment bienveillant pour qu'ils se sentent à l'aise pour s'exprimer publiquement, et aussi de voir qu'il y a une diversité des points de vue et qu'on n'était pas en fait dans un public extrêmement homogène sur les points de vue. Voilà. Donc ça, pour moi, c'était quelque chose que j'ai vraiment retenu de la journée d'hier.
Donc c'est une petite pépite, quoi.
Voilà.
Et alors, si tu devais maintenant, parce qu'on, du coup, il y a la nuit qui est passée là-dessus, est-ce qu'il y a un mot ou une expression qui pourrait résumer que tu vas garder de cette journée de mardi au CCO?
Alors le mot que je garderai, c'est espoir, à la fois en lien avec l'énergie qu'il y a eu pendant la journée et les connexions qui se sont créées, mais aussi par rapport à la table ronde qui a eu lieu et au discours et à la posture des élus, notamment Grégory Doucet. C'était la première fois que j'avais l'occasion de le voir, on va dire, en chair et en os et de l'écouter, et j'ai vraiment apprécié sa posture d'humilité et de co-construction avec nous, en fait, accompagnateurs. Et je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça que j'ai envie d'imaginer le monde de demain, et le lien entre les élus et la société civile.
Et ben, merci Myriam, et à bientôt pour d'autres aventures.
Un jardin un peu désaffecté, des fresques murales ici et là, des œuvres d'art disséminées le long des murs, une série d'associations dans toutes les salles de l'autre soi, le nom de l'endroit. 40 à 60 personnes, militants, élus, coopérateurs, rassemblés pour discuter de la résilience de nos territoires. Voilà à quoi a ressemblé ma journée d'hier au sein de la Big Oasis. Les débats ont été riches autour de cette question de résilience et j'en ai retenu plusieurs choses. La tension entre conceptualiser la résilience ou l'expérimenter, la question sur l'acceptabilité des mesures à prendre, comment les favoriser, la nécessaire humilité des élus, de ceux qui nous accompagnent face aux incertitudes auxquelles on est confronté, et finalement deux pistes intéressantes de réponse. La première, la solidarité. On faisait remarquer que dans les périodes de crise, elle est plus forte, c'est le premier réflexe, la fraternité, la solidarité entre les citoyens. C'est ce qui nous unit, ce qui nous permet de faire société, et ce qui va nous permettre de réagir face aux changements qui arrivent. Donc c'est quelque chose à encourager, et finalement, la solidarité rejoint la valeur de la coopération. Et la deuxième chose, c'est le fait d'accepter aussi de ne pas savoir, et donc de procéder par essai-erreur, d'expérimenter des petites solutions, des plus grandes solutions, de pouvoir les faire dialoguer à différents degrés de pouvoir de décision. Et je pense qu'à la fois au sein de nos coopératives d'activité et d'emploi, on met en œuvre ces valeurs de coopération et d'expérimentation. Et on a sûrement des choses à apporter dans la construction de ce monde d'après, aux côtés des élus, pour faire évoluer nos territoires vers quelque chose de plus résilient. Un grand bravo aux organisateurs pour avoir rassemblé autant de personnes diverses, de qualité autour de ces questions. Un grand merci aux participants aussi pour la richesse des échanges, et hâte de voir ce que ça va donner sur la Micro Radio.
Bonjour, donc cette table ronde que nous avons initiée dans le cadre de Big Oasis. Nous avons cet après-midi avec nous la locale de l'étape Agnès Souvenot, qui est première adjointe au maire donc, sur Virbanne. Également Véronique Morera, donc, qui est vice-présidente à la métropole en charge des collèges et de l'éducation. Marc Grivel, donc, anciennement maire de Saint-Cyr-Mont-d'Or et toujours conseiller communautaire, président du groupe Synergie, qui regroupe donc des élus de communes petites et moyennes de l'agglomération lyonnaise, notamment dans l'ouest lyonnais. Il y a bien sûr donc, Jean-François Debat, donc, maire de Bourg-en-Bresse, président de l'agglomération burgienne. Et puis Grégory Doucet, tout jeune maire de Lyon, donc, qui nous rejoint aussi également cet après-midi. Merci à vous cinq d'être avec nous. Nous allons aborder tout d'abord la manière dont vous avez vécu donc, cette période très particulière du confinement, de la pandémie, mais aussi de la période électorale. Chose étrange que nous avons vécue ensemble. Donc une campagne en même temps qu'une pandémie et un confinement. Donc beaucoup de questions ont été abordées ce matin dans nos ateliers autour du rôle des élus, du rôle de la société civile ancienne, de la manière dont ensemble ou pas ils peuvent composer véritablement une complémentarité, une coopération efficace pour le mieux-être des habitants. Nous allons vous interroger successivement tous les cinq autour de ces questions.
Donc on vous propose dans cette table ronde d'aborder des questions qu'on a évoquées ce matin en groupe de travail. La première d'entre elles traite de la crise, des situations de crise dans lesquelles on est. Qu'est-ce qu'on peut retenir de la crise pandémique qui est passée, mais aussi de la crise actuelle, sociale, économique, et puis de crise à venir? Comment les élus locaux que vous êtes peuvent naviguer dans un monde incertain? Et comment piloter l'action locale avec d'autres, avec les forces de la société civile notamment? Les crises génèrent ou accélèrent des inégalités, elles créent des vulnérabilités pour une partie de la population. Donc comment, dans ces situations, on peut prendre soin effectivement des plus vulnérables? Et comment on peut s'attaquer frontalement à la question des inégalités? Et ce sont ces questions-là qui seront au cœur de nos discussions.
Par rapport à ce que nous avons vécu, je voulais vous dire deux, trois choses. Je rejoins en tout cas les mots-clés qui sont l'humilité. Pour le coup, on a pris un grand coup sur la tête et il a fallu être l'humilité totale. Et je suis d'accord avec ma voisine. J'en avais assez d'entendre les experts autour de aller, qui savaient tout, qui fallait faire ci, qui fallait faire ça. Et que manifestement, le lendemain, il y avait d'autres experts. L'humilité, c'était de dire, finalement, là où nous sommes, on ne sait pas faire. Je ne dis pas qu'on ne dit pas tout. Parce que les gens qui peuvent nous dire quelque chose, ils ne savent pas tout non plus. Et donc l'humilité, ça a été la règle d'or. C'est-à-dire, effectivement, nous ne savons pas tout. Et comment on fait quand on ne sait pas? Donc on essaye de faire au jour le jour pour protéger, pour accompagner, pour faire de la survie pour certains, on a parlé tout à l'heure de l'aide sociale. Ça, c'est une première leçon. La deuxième leçon, c'est la solidarité. Moi, j'ai été, en tout cas, dans les communes et dans les territoires, bluffé par le fait qu'il ne fallait pas forcément une association. Il y a d'ailleurs certains de gens qui se disaient, il y en a marre. On se prend en main. Et on va faire des masques. Il y en a marre, on va aller aider les familles qui ne s'en sortent pas. Et ça, ça n'est pas dissociatif, c'est encore mieux que ça. C'est, j'ai pris ça comme la révolution du peuple. Le peuple se dit à un moment donné, on a assez, nous on est le peuple et on y va. Et puis on va se mettre en distance de 20 couturières et on fait des masques. Et ça a été effectivement un rebond assez contesté. Il y a dans notre société des ressources comme ça qui émergent à certains moments et qui sont des richesses naturelles extraordinaires.
Moi, il me semble qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des règlements climatiques, parce qu'il y a des glissements du vivant, on sait qu'on est amené à devoir être confronté à un certain nombre de bouleversements dont on ne maîtrise pas encore la portée ni la rapidité. Aujourd'hui, si on est responsable politique, on doit approcher les sujets par les risques, c'est-à-dire les identifier bien en amont, pouvoir définir toutes les mesures d'atténuation, les scénarios possibles qui nous permettent de nous en sortir quand même. Et ça, la culture de la gestion de risque, elle peut nous paraître, maintenant qu'on est passé à travers une crise un peu commune, mais en fait, elle n'est pas du tout. Si vous regardez l'organisation de l'État, les services qui ont une culture de gestion de risque, bon, pour faire simple, ce sont les ministères et la protection civile. Voilà. Dans les grands services de l'État, pas tellement l'habitude de faire de la gestion de risque. La gestion de risque, c'est quoi? C'est déjà l'anticipation, mais c'est aussi se montrer être capable d'être très agile. Et on a vu comment dans la crise, l'agilité était clé. Et avec la culture de risque, il faut réinvestir dans la prospective. Pour moi, ça, c'est fondamental. C'est-à-dire, pas seulement penser à l'échelle d'une mandature, voire de deux mandatures, c'est-à-dire à l'échelle de ce que un responsable politique est capable d'engager pour lui-même, mais de penser du très long terme. Le très long terme, c'est penser aujourd'hui 2050, 2100. Ben, il y a des investissements qui ont besoin d'être pensés dans cette perspective-là. Je pense que cette crise, elle nous a aussi, alors on parlait de coopération, fraternité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Parce que c'est un bien grand mot de parler de fraternité et de coopération. Ça veut dire que dans le mode de travail, il faut favoriser les approches collectives. Il faut que les gens aient l'impression d'être partie prenante de la réponse. Et du coup, les décisions ne doivent pas être simplement le fait d'une seule personne, mais elles doivent être prises collégialement. Il faut développer une culture de la transversalité, mais là encore une fois, la culture de la transversalité, ça paraît très simple. Enfin, on peut dire oui, on va développer une culture de la transversalité, mais ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut forcer les gens à travailler entre eux, alors que nos organisations administratives, la plupart du temps, elles sont en silo, avec des responsabilités limitées. Moi, j'ai demandé à tous les adjoints, j'ai leur demandé avant qu'ils soient élus, de rédiger des notes d'orientation politique, et dans ces notes d'orientation politique, je leur ai demandé d'identifier les autres adjoints, les autres membres de l'exécutif, avec lesquels ils vont devoir porter un certain nombre de chantiers. Pour les obliger, certains le font de manière très naturelle, mais pour les obliger à fonctionner de manière transversale. Mais c'est pas évident, parce que quand on vous donne une responsabilité, vous avez envie d'assumer seul. Donc il faut instiller une culture de travail, de la transversalité.